Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez RMC, les 22h passées de 120 secondes, l'after jusqu'à minuit, dans quelques instants. On continue, à tout de suite.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules, surtout.
C'est fini. Bon, va à la Fashion Week.
Redescends.
Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. C'est bon. Voyage en classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
L'after qui continue jusqu'à minuit, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut à tous, salut aux amis du bémol.
Au programme des deux heures qui viennent dans l'after, le capitana au Paris Saint-Germain. Florent veut en parler. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 22h45-23h. Daniel, lui, veut parler de l'avenir de l'Olympique lyonnais avec vous au 32-16. Donc également après 23h. Et puis on joue en Allemagne. Ce soir, Paulo Breitner sera avec nous un peu plus tard pour analyser les résultats du soir. En ce moment, par exemple, le Bayern étonnamment perd contre Cologne. 1-0 pour Cologne à Munich, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Et puis dans quelques secondes, si vous êtes fan de foot, évidemment, vous êtes là, vous êtes fan de foot, et si vous êtes fan de foot et d'histoire, comme nous, dans l'after, vous allez vous régaler, vous allez découvrir des liens étonnants entre l'histoire récente de notre pays et les matchs de l'équipe de France à l'occasion de la sortie d'un livre il y a quelques mois de cela qu'on a sur notre table, et l'auteur du bouquin est avec nous, je l'accueille dans quelques instants. D'abord, les matchs, parce qu'il y a pas mal de matchs en cours. Match en Angleterre ce soir, Southampton Newcastle 0-0 à la mi-temps. En Italie, la Lazio mène 2-0 face à Milan en championnat. Match important pour Naples indirectement qui s'envolerait en tête de classement avec une victoire là, si Milan perd. Et puis donc le foot allemand, je vous ai dit que Cologne menait 1-0 Bayern tout à l'heure. Leipzig a gagné 6-1 à Schalke qui va pas très fort. Paulo Breitner tout à l'heure pour analyser tout ça. Le 32-16 est ouvert pour tous nos sujets du soir. Le hashtag RMC Live sur Twitter. Et puis Direct Studio, notre messagerie à nous sur nos applis RMC, RMC Sport, qui vous permet de nous envoyer des messages en direct. N'hésitez pas à le faire. Dernier message arrivé. Daniel revient sur Twitter. Incroyable. On attend les prochains tweets sur la carrière de Verratti. Ce dernier message arrivé sur Direct Studio de Thibaut. Voilà. Je complète son. Il dit, on attend les prochains tweets sur la carte de Verratti, mais aussi sur la CGT Sudrail et les pizzas dell'Arte. Apparemment, il te connaît bien.
Exactement.
François Darocha Carnero est avec nous. François, bonsoir.
Bonsoir.
François est historien, messieurs, auteur de auteur, prof d'histoire aussi. On en parlait.
Prof d'histoire, oui.
Tout à l'heure. Bon. Et passionné.
Lycée,
foot.
Collège. Lycée et un petit peu appréciant le foot. Après. Croyant mais pas pratiquant.
Très bien. Alors, le livre s'appelle Une histoire de France en crampons. Alors, moi, je suis tombé dessus dans une librairie et j'ai feuilleté. Je me suis dit, c'est génial, c'est pour moi, j'ai acheté. C'est top. Donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle dans l'after. Parce que vous réussissez le tour de force, en fait, de faire à chaque fois un lien entre des matchs de l'équipe de France très précis et des moments d'histoire. Alors évidemment, l'équipe de France, ça remonte pas au 15e siècle. Hein. Le premier match de l'équipe de France, c'est 1904. Comment est née cette idée d'associer, parce que c'est pas forcément évident. Moi, je me suis dit, comment va-t-il réussir le tour de force de faire ça?
L'idée, elle vient de fait de l'écriture de l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui, en variant les supports et en variant les angles d'attaque. Donc, je suis un historien de ma génération qui se nourrit de ce que les autres historiens peuvent faire, et également quand même de travaux qui ont pu être faits en Angleterre, en particulier par Jonathan Wilson, qui a écrit une anatomie de l'Angleterre en 10 matchs. Donc l'idée était de rebondir, de reprendre un petit peu cette idée avec le champ de recherche qui est le mien, ma spécialité d'historien, à savoir l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France masculine. Mm-hmm. Je ne me suis pas penché sur l'équipe de France féminine, alors qu'on est aujourd'hui le jour international du sport féminin, certainement le grand événement du jour avec le retour de Daniel Riolo sur Twitter.
Exactement.
Voilà, à partir de ces nourritures multiples, à la fois historiennes et puis liées à l'histoire du football ailleurs qu'en France, est venue l'idée d'écrire une histoire de France à partir de matchs.
Et alors, vous avez décidé de diviser ça en quatre grandes parties. qu'on peut détailler pour bien comprendre, en fait, que comme je l'ai dit, évidemment, on peut pas remonter très très loin, puisque le premier match des Bleus, c'est 1904 face à la Belgique. Une belle tôle, d'ailleurs.
Non, match nul. 3-3.
Ah non, c'était quand la tôle, le 12 ou 16-0 là?
Il y a eu des 12-0 ensuite, il y a eu le 17-1 contre le Danemark en 1908, mais 1904, c'est
17-1,
3-3. 17-1, mais le but français était marqué par un Roubaisien, donc l'honneur est sauf.
Très bien. Ouais, alors c'est quoi ces quatre parties?
Alors les quatre parties, il y a le soldat, les fils d'immigrés, le monde du travail, puisque les footballeurs sont des travailleurs, et comment on réagit comme Français face au totalitarisme, face au monstre. Alors totalitarisme installé dans le cadre de dictature, ou terrorisme, ou Covid.
Alors, c'est très intéressant. Alors, on va faire un peu partie par partie.
Le Covid, c'est déjà la partie la plus étonnante, la plus capillotractée, je dirais,
qu'on voit au fil de l'histoire quand même que les choses s'arrangent et les dangers sont moins dangereux. Si vous me permettez, professeur.
Il y a quand même eu cette dizaine de milliers de morts.
Je pense que ça n'est pas comparable avec les guerres mondiales. Non, quand même,
tout à fait.
Même si, effectivement, ce fut dramatique.
Alors. Au fil des pages, on redécouvre aussi des. Alors moi, ce que j'adore, c'est les matchs du début du XXe siècle, là, parce que là, tu découvres des noms de joueurs, des noms de clubs, comme par exemple l'Union Athlétique Inter-Gazzaric, le Club des Sports Athlétiques à Paris, l'Étoile des Deux Lacs. Bon, c'est des clubs qui ont disparu, qu'on connaît plus. Bon, enfin bon. Démarrons par la première partie, donc, qui parle des soldats. Donc forcément, c'est des matchs proches des guerres mondiales avant, après. Je prends le premier que vous avez choisi, François, 1919.
Pendant 42 aussi. Ouais.
Pardon ? Oui, il y en a un pendant 42, on va y venir après. Mais d'abord, Première Guerre mondiale, il y en a un qui est post-guerre, en 1919, Belgique-France, où là, il s'agit de reconstruire l'équipe de France et de reconstruire la France.
Alors, le gros débat à ce moment-là, c'est reconstitution ou reconstruction ? Est-ce qu'on refait avec l'équipe d'avant la guerre, en sachant qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont morts, il y en a beaucoup qui ont été blessés, d'autres qui ne sont plus en état de jouer, qui sont à la fin de leur carrière, de fait, ou est-ce qu'on reconstruit une équipe de France, non pas ex nihilo, mais en tenant compte de l'effet de génération ?
Les joueurs étaient partis à la guerre. Je pense qu'il y a des auditeurs, c'est difficile de concevoir que la mobilisation générale, ça veut dire tout le monde.
On est joueur quand on a l'âge d'être soldat.
Et oui,
de fait. Et donc ces joueurs étaient en effet partis à la guerre et il y en a quelques-uns, donc une quinzaine qui sont restés, qui sont morts pour la France pendant la guerre.
Mais excusez-moi de vous couper, c'est comme on voit en Ukraine des joueurs de tennis, certes plus en activité, mais qui sont allés au front. Il y a également le boxeur, lui qui avait commencé.
Klitschko.
Klitschko est impliqué aussi, le maire de Kiev.
Le champion actuel, le champion du monde des lourds actuel. Merde, son nom m'échappe.
Bon, Lomachenko, non ?
Qui a ensuite est reparti s'entraîner, mais qui au début a quand même été là. Voilà, ça existe, le champion sur le champ de bataille. Quoi.
Non, mais de fait, c'est l'âge, en effet, qui veut ça. Ouais. On est champion quand on a l'âge d'être aussi soldat. Et donc, en 1919, la question qui se pose, c'est reconstitution, reconstruction. On choisit de reconstruire une équipe de France et en même temps, c'est aussi la reconstruction fédérale, puisqu'il n'y avait pas de fédération française de football et que la fédération naît d'un embryon d'avant-guerre, le CFI, le Comité français interfédéral, qui finalement débouche sur une fédération unisport, alors que jusqu'alors, le football était entre les mains de fédérations omnisports.
Oui, on découvre aussi ça, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait des guerres entre groupements en fait de dirigeants qui voulaient s'accaparer l'organisation du foot finalement. Alors, ça veut dire que ces matchs d'après-guerre, que ce soit Première ou Deuxième Guerre mondiale, il y avait une sorte aussi de patriotisme exacerbé. Forcément, on sortait de conflits mondiaux, donc je pense que l'équipe de France avait sans doute une symbolique plus forte qu'en temps de paix.
De fait, les matchs de l'équipe de France servent un petit peu de vitrine à ce patriotisme qui est en plus affiché par des joueurs de l'âge des soldats. Donc il y a vraiment cette concordance. Et en 1919, la plupart des joueurs sont encore soldats, puisque la mobilisation reste valable jusqu'à l'été 1919. Les combats s'arrêtent le 11 novembre, mais pas la guerre elle-même. Donc il faut attendre les traités de paix, il faut attendre la démobilisation pour que la guerre s'arrête véritablement. Donc de fait, là, il y a une marque patriotique qui est particulièrement forte encore en 1919 et qui peut l'être également à d'autres moments de l'histoire.
Est-ce que vous arriveriez à dater la, on va dire, la politisation du football et de l'équipe de France. C'est-à-dire à quel moment est-ce que nos dirigeants commencent à s'y intéresser, à se dire tiens, on a un intérêt quand même à soutenir ce mouvement populaire qu'est le football. Emmanuel Macron, avant la Coupe du Monde, a dit le football ne doit pas être politisé. Bon, évidemment, c'est totalement faux puisqu'il l'est en permanence, mais enfin bref.
Il l'a démontré lui-même. Ouais.
Voilà. Quand on se remémore les débuts balbutiants de l'équipe de France, que le foot au début du XXe siècle, c'est pas grand chose. Hein.
Disons qu'il y a deux moments où on peut vraiment dater cette politisation. On peut aller voir des racines de la politisation de l'équipe de France. C'est d'abord la fin des années 30, lorsqu'elle est prise à partie par les journaux d'extrême droite, et en particulier l'Action française, qui voit dans le football français, et en particulier dans l'équipe de France, un ramassis de mercenaires étrangers. Et puis ensuite,
pourquoi ? Parce qu'il y avait des joueurs d'origine étrangère qui jouaient.
Des joueurs d'origine étrangère. Il y avait des joueurs d'origine coloniale, issus des colonies. Il y avait des étrangers naturalisés. Donc il y a cette idée-là. Et puis il y a également l'aspect racial qui entre en compte, puisque à partir de 1931, on a des joueurs noirs qui évoluent en équipe de France. Le premier, c'est Raoul Diagne en 1931. À la fin des années 30, on en a d'autres, et en particulier l'Arbi Ben Barek à partir de 1938. Et puis l'autre vague, l'autre moment de politisation assez fort, c'est probablement dans les années 70, à partir des années 70-80. Alors certains y adhèrent, certains hommes politiques y adhèrent très rapidement, et on peut penser à Valéry Giscard d'Estaing qui se montre en short en train de jouer au football et
de mal jouer au football.
De mal jouer au football, mais peut-être aussi bien quand même qu'à l'accordéon. Et dans les années 70, c'est aussi l'éclat de l'épopée verte qui médiatise finalement le football en France, alors que jusqu'alors, il n'y a pas grand monde qui a envie de regarder des matchs de foot, et la Fédération française a plutôt peur de se faire dépasser par la fédération de rugby jusque dans les années 70. L'épopée verte arrive, médiatise le football, et dès lors, des politiciens peuvent avoir intérêt et peuvent aussi avoir le goût du football, parce que ce sont aussi des politiciens qui ont fait de l'EPS, qui ont fait du sport à l'école et qui ont pu être sportivisés, qui ont pu être éduqués au sport et en particulier au foot. On peut penser aux trois derniers présidents, hein.
Emmanuel Macron,
qui sont branchés foot bien plus que ne l'étaient leurs prédécesseurs.
C'est vrai. Parlons de ce fameux match de 1942 dont parlait Florent. Donc là, on est en pleine guerre et il y a un Espagne-France qui est organisé. Alors vous allez me dire, peut-être que les adversaires du moment en 42 étaient un peu limités. Hein, je sais pas, peut-être l'Allemagne, le Japon, l'Italie et l'Espagne. Je sais pas.
L'Espagne est un pays neutre. On choisit de se battre contre un pays neutre.
Bon, qu'a-t-il de spécial ce match-là ?
C'est un match lié à la séparation du territoire, à la division du territoire en plusieurs parties. Et les deux principales parties sont connues, c'est la zone libre et la zone occupée. Et la difficulté de passer de l'une à l'autre, d'avoir l'autorisation de passer de l'une à l'autre. Les laisser passer. Donc les clubs du Nord ne peuvent pas laisser passer aisément vers le Sud leurs joueurs. Et bien sûr, un problème aussi d'organisation de l'équipe, parce que le sélectionneur lui-même, Gaston Barrault, n'a pas la faculté d'aller aussi facilement d'un bout à l'autre du territoire que s'il n'y avait pas cet éclatement du territoire national sous occupation.
Alors, on dit qu'il a, par exemple, vous racontez qu'il n'a pas réussi à voir certains matchs dans le Sud, hein, c'est ça notamment, et qu'il n'a donc pas pu sélectionner les joueurs qu'il voulait. Il a fait jouer des joueurs à d'autres postes que ceux auxquels il jouait habituellement.
Oui, en particulier Maurice Dupuis qui est défenseur initialement, que son club fait jouer finalement avant-centre et ça marche plutôt bien. Mais Gaston Barrault a besoin d'un défenseur, donc il le replace en défenseur.
Oui, d'accord. Là, on est en mode club amateur du dimanche, là, qui est en manque de défenseurs et qui met l'avance entre.
Et d'ailleurs, avec un.
D'ailleurs, l'Espagne a gagné 4-0, je précise.
Oui, mais d'ailleurs, il le dit, le sélectionneur, il dit ça va être très compliqué parce que il dit il nous faudrait un avantage de 2 buts pour espérer l'emporter avant le match. Enfin, ça, c'est des phrases qu'on entend rarement. Mais aussi le problème du professionnalisme qui a des hoquets, évidemment, à ce moment-là en France et qui fait que les joueurs sont pas préparés, en fait.
Oui. Le professionnalisme est quelque chose de très récent officiellement. De fait, en fait, le professionnalisme, la pratique professionnelle est bien plus ancienne, mais officiellement, c'est à partir de 1932. Et le régime de Vichy, l'arrivée du régime de Vichy, fait une pause, pour prononce une pause dans le professionnalisme, interdit le professionnalisme parce que c'est mal vu et reconstitue des équipes fédérales, des équipes de fonctionnaires plus ou moins sportifs. Et finalement, ça ne marche pas. Cette formule échoue plus totalement. Au bout d'un an d'ailleurs de réforme en 1943, dès 44, on remet tout cela à plat. Et le régime de Vichy.
Le joueur, là, qui a fini collabo, là.
Alors, Alexandre Villaplane.
Villaplane, mais moi, je voulais parler qu'on parle d'un autre joueur, puisque c'est la période, c'est Mattler, à l'inverse. Parce que Étienne Mattler, c'est quand même un symbole incroyable, à la fois footballistiquement et patriotiquement.
Ouais, résistant, bon, capitaine de l'équipe de France, alors, qui est capable de tenir tête à une Italie fasciste quand même en 1938. 38, ouais. Et puis, en effet, qui entre dans la résistance. Il est déclaré mort pendant la guerre et finalement, non, il n'est pas mort. Mais bon, c'est.
Il rejoint le général Leclerc, non, c'est ça?
Oui, oui. Et par ailleurs, en effet, c'est en même temps qu'Alexandre Villaplane qui, lui, est un pauvre gars finalement qui
lui c'est surtout à la base un voyou et
oui,
après il devient collabo
c'est, parce c'est ça c'est une petite frappe
exactement c'est une petite frappe qui devient une grosse frappe et qui tombe dans la grande délinquance puis dans le collaborationnisme mais qui de fait n'a aucune ambition collaboratrice. Pour preuve d'ailleurs le dernier club qu'il fréquente à la fin de sa carrière professionnelle c'est un club juif.
Lui, il était là pour le pognon.
Il avait pas de cohérence d'idées ou de ligne directrice.
Absolument aucune.
Et pour ceux qui, pour les jeunes, hein, je dis ça pour Mattler, puisqu'il y a beaucoup de livres. C'est vrai que Villaplane, on a entendu parler récemment. Je crois qu'il y a un bouquin qui a été fait.
Oui, on avait Luc Briand.
Et Luc Briand fait d'ailleurs le parallèle avec Mattler.
Pour ceux qui veulent aller voir déjà des écrits et des choses sur lui, c'est quand même, c'est une vie. C'est Daniel parlait de ceux qui sont engagés là, qui sont engagés très très vite là par rapport à l'Ukraine. Enfin. Lui, effectivement,
Musique, le boxeur d'ailleurs.
Et dès 38, c'est fort parce que lui, par rapport à l'Italie fasciste, il a déjà un discours, une façon de se comporter. Puisqu'on a aussi beaucoup demandé aux joueurs, ça c'est une question aussi qu'on pourra poser. Là, même pour le Qatar, pour l'Argentine en 78, comment doit-on se comporter quand on est footballeur? Qui a le courage de prendre la parole? Comment? Bon, Mattler, lui, c'est un exemple de ça. Quoi.
On va en parler dans quelques instants. On continue la discussion avec François Darrocha-Carnero, donc le livre Une histoire de France en crampons aux éditions du Détour. A tout de suite dans l'After.
RMC, jusqu'à minuit, l'After-foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h21, oui pile, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, le Bayern a égalisé un partout face à Cologne.
Magnifique de Kimmich.
Il reste quelques minutes à jouer et puis la Lazio mène désormais 4-0 face à Milan. Milan qui prend une petite tôle là, par la Lazio. On en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, François Darrocha-Carnero est là, historien. Son livre, Une histoire de France en crampons. Donc, on en parle ensemble. François, le deuxième grand chapitre, est appelé Une France de sang mêlé. Alors là, évidemment, on y retrouve en fait toutes les vagues d'immigration que la France a connues, incarnées à chaque fois par des matchs. Alors, on va parler tout à l'heure de l'immigration maghrébine, des France-Algériens, du France-Algérie de triste mémoire sur la fin du match en tout cas mais il y en a un autre là qui est intéressant le chapitre ça s'appelle 11 avril de 54 Italie-France l'ère des Rital et des Polak. C'est-à-dire que est-ce qu'il y avait des polémiques à l'époque sur l'intégration de ces immigrés ou est-ce qu'en 54 on était déjà passé à autre chose ou pas encore?
Alors des polémiques non, mais en revanche il y a des caricatures qui sont d'un fond raciste incroyable avec des Gaston Barreau qui sélectionnerait des crétinski, des ridiculeski, alors c'est pas le mot qui est donné, mais voilà, on met des insultes et on ajoute des i, des ski, etc. On fait croire que ce sont des Rital et des Polaks, des Italiens et des Polonais. Moi ce qui m'intéressait surtout dans ce chapitre, c'est de parler non pas des immigrés, mais des enfants d'immigrés. Parce que ces garçons-là, ces hommes-là, n'ont pas vécu la rupture qu'est l'émigration ou l'immigration. Mmh. Ils sont nés en France, ils sont nés français, par le sol et par le sang. Ils ont pu avoir des ascendances autres. Et ils ont, par la sueur du maillot, ils ont défendu les intérêts sportifs de la France.
Exactement. Alors, on voit un peu toutes les vagues d'immigration et vous dites que l'Algérie traverse un petit peu toute l'histoire des Bleus, finalement.
Oui, parce que l'Algérie, c'est d'abord une partie de l'Empire colonial et non des moindres. Puis, ça devient un État souverain indépendant. Donc on le trouve à la fois, on trouve cette marque algérienne dès les années 20, avec d'abord des joueurs européens d'Algérie, puis Pierre Chéneau pour citer le premier, puis des joueurs arabes algériens, et ensuite on trouvera des joueurs pieds noirs, quelques harkis, mais très peu. On a deux fils de harkis, c'est Fares Bouzira et Omar Sanoun, et ça s'arrêtera là. Et ensuite, on a des joueurs issus de l'immigration post-coloniale, post-indépendance.
Alors, il y a au milieu de cette histoire sur l'Algérie, là aussi, il y a un autre bouquin fait par Michel Naït Chalal sur l'équipe du FLN. Mmh. Mais là, au moment de la guerre d'Algérie, il y a ceux qui décident, qui jouaient pour la France et qui décident d'aller rejoindre l'équipe du FLN.
Oui, il y a l'équipe du FLN dont il est question dans une autre partie pour cela. Justement. Dans une autre partie sur la guerre.
Oui, tout à fait. Il y a un match que vous prenez en exemple.
Contre la Suisse.
Où en fait, les joueurs ne sont plus là. Il y avait les internationaux.
Alors, il n'en manque qu'un seul, finalement. C'est Moustapha Zitouni qui, lui, renonce à la possibilité d'aller en Coupe du Monde, alors qu'il est trentenaire et qu'il n'a plus aucune chance d'aller en Coupe du Monde.
Tant que ça, finalement, des joueurs d'origine algérienne qui ont porté le maillot bleu. Par rapport aux Espagnols, aux Italiens, aux Polonais.
Il y en a eu quand même beaucoup.
Oui, mais est-ce qu'il y en a eu plus que les pays que je viens de citer finalement?
Parce
qu'on insiste beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on s'aperçoit que la tendance est plutôt à ce que les joueurs qui sont originaires de ce pays veulent même jouer pour la sélection de leurs ancêtres, pas de leurs parents, parce que
d'ailleurs, les parents sont même de deuxième ou troisième génération. D'ailleurs, il y a évoqué le cas de Fekir, dans le livre.
Mais même, ils veulent. Maintenant, la tendance, c'est que beaucoup veulent jouer pour le pays d'origine, des grands-parents, des parents, des arrière-grands-parents.
De fait,
si finalement, il y en a, pour en revenir à ma question initiale, il n'y en a pas tant que ça.
Hein. Si on ne prend que les descendants d'Algériens indépendants, non, il n'y en a pas tant que ça.
Il y a le plus symbolique, le plus fort, le plus
Zidane,
et Karim Benzema. Effectivement, une sorte d'un mec un peu hors du temps, mais il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça. En revanche, si on prend l'ensemble de la population d'Algérie, y compris les Français d'Algérie, puisqu'ils sont aussi dans cette équipe de France, là, ils sont quand même très nombreux. Ils sont beaucoup plus
Il n'y a pas que l'Algérie, il faut rappeler que Juste Fontaine est né au Maroc, par exemple.
Juste Fontaine est né au Maroc, tout à fait. Jean-François Larrios également, pied noir. Bon, voilà.
Moi, je parlais de l'Algérie parce que souvent on parle de ce pays comme quoi. Et finalement, en fait, les enfants, petits-enfants d'immigrés qui ont joué pour l'équipe de France, en fait, ils viennent d'énormément de pays. Il ne faut pas se centrer uniquement sur ce pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, mais l'équipe de France, elle est très variée, finalement, dans ce qu'elle a.
Mais d'ailleurs, c'était là. Il y a évidemment le 12 juillet 98, mais. Le slogan Black Bomber, que à raison on a décrié parce que c'était un raccourci, mais en revanche il a mis au jour une réalité qui était bien antérieure en fait à cette équipe de 98, parce qu'effectivement c'est l'objet du chapitre, c'est une équipe, l'équipe de France est nourrie effectivement de l'immigration.
Oui, de fait.
Enfin, ou de son histoire après coloniale et autres. D'ailleurs.
Si on devait résumer les choses,
en France 98, il y a très peu d'immigrés.
Zidane, fils d'immigrés, j'entends, pas immigré.
Et 98, t'as une symbolique, parce que t'as les Arméniens, t'as les gens du Dom-Tom, calédoniens, entiers.
C'est juste une symbolique et une affaire de marketing, mais ça n'est pas ce qu'on a
attendu. Non, ce que je veux te dire, Daniel,
je te parle pas de ça, je te parle concrètement la composition des bleus. Après,
c'est bien ce que je te dis, c'est de la couleur, en fait.
Oui, mais peut-être.
C'est ça, en fait, le vrai problème.
Peut-être pour celle de 98, mais ce qui est intéressant de voir quand même quand on regarde l'histoire dans le bouquin, c'est de voir à quel point, c'est presque une palissade, on va dire, que puisque le sport d'extraction sociale modeste, quel foot, va recruter dans les catégories modestes, il va recruter aussi dans les catégories polonais, italiens, des vagues d'immigration successives. C'est pas un tabou que de dire ça.
Oui, mais non, mais c'est pas que c'est un tabou, mais moi j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il fallait faire la promotion de ça.
C'est pas la promotion, c'est factuel.
En quoi ça mérite qu'on en parle autant, machin. Je veux dire, moi-même qui suis enfant direct d'immigrés première génération, en fait, j'en ai rien à foutre de le dire en permanence ou que sans arrêt il faille parler de ça ou si tu le dis une fois de temps en temps comme ça et tout, mais que sans arrêt il faille en faire des pages et des chapitres.
C'est pas qu'il faut en faire des pages, Daniel. Attends, je vais te dire la raison.
Je serais supérieur à quelqu'un d'autre.
Non, t'es pas supérieur. Alors je vais te dire pour voir un peu partout des discours qui à l'inverse sont des discours pour être très clair racistes aujourd'hui quand j'entends parler de l'équipe de France par exemple, parce qu'il y a beaucoup ça en France.
Il est ça dans tous les pays.
Mais oui, mais peu importe. C'est pas parce que c'est dans tous les pays que tu dois pas justement expliquer que l'histoire de l'équipe de France, elle s'est nourrie de tout temps de toutes ces vagues d'immigration. C'est pas mieux.
Je pense
que l'intelligence, c'est l'histoire, et que l'histoire permet de comprendre les choses. C'est en ce sens que c'est important. C'est pas pour toi qui es fils d'immigré et qui a sans doute vécu et compris ces choses-là. C'est pour ceux qui te disent, par exemple, pour être très très clair, qu'il y a trop de noirs en équipe de France, parce que c'est un discours qu'on entend. Faut le dire. On l'entend dans beaucoup en France, et qu'on ne se reconnaît pas, je sais pas quoi, dans cette équipe-là. Et donc, bah, de rappeler que couleur ou pas,
façon,
d'ailleurs.
Dans cinq ans, si un jour t'as pas de blanc, quand on fera la remarque dans l'autre sens, tu diras quoi?
L'objectif du chapitre était de déplacer la focale. Justement, l'objectif du chapitre est de déplacer la focale. On ne se focalise pas seulement sur France 98 et toute la mythologie qu'il peut y avoir autour, mais qu'on comprenne également que l'équipe de France, avant même que le football soit populaire, alors que le football est pratiqué avant tout par des fils de patrons et par des fils de la boutique, de commerçants, d'employés parisiens, elle a déjà ses enfants d'immigrés dès ce moment-là, et que, en effet, ce sont des Français comme les autres. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les immigrés eux-mêmes que j'ai étudiés dans ce chapitre, ce sont les enfants d'immigrés, pour montrer juste qu'ils ont leur place parmi les autres.
Oui, évidemment qu'on a notre place parmi les autres, mais Français comme les autres, je sais pas ce que ça veut dire, moi, toutes ces expressions. Oui, l'enfant d'immigré, il est français comme les autres d'un point de vue du droit. Évidemment, il doit avoir les mêmes droits, il doit pas y avoir de discrimination. Mais on n'est jamais réellement un français comme un autre quand on est immigré. C'est pas complètement vrai. On doit avoir exactement les mêmes droits, il ne doit pas y avoir de discrimination. Mais on n'est pas exactement pareil. Donc, c'est toutes ces expressions là. Moi, ça me fatigue un petit peu ces choses là, mais qu'on veuille insister en permanence sur la diversité, sur la promotion de ça. Je suis pas sûr que ça ait apporté tant de choses que ça sur les 40 dernières années. J'ai l'impression que ça a plus séparé les gens qu'autre chose, moi.
Bon, on va passer à l'autre chapitre dans quelques instants, puisque le monde du travail est évoqué, enfin c'est l'objet d'un chapitre dans le bouquin de François, avec pas mal de petites affaires que j'avais par exemple oubliées. On va se remémorer ça dans quelques instants. On va notamment parler de la fameuse affaire des chaussures de 78. Dans quelques secondes. 22h30, l'after revient tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
22h34, l'after est là jusqu'à minuit. Tout à l'heure, Mercato, on va vous donner des infos de l'échange qui se prépare entre Mofi et Dieng, entre Lorient et Marseille. On va parler de Lyon, on va parler du capitanat du PSG, mais pour l'instant on continue cette page d'histoire comme on les aime dans l'after, avec Florent Gautreau, Daniel Riolo et donc François Darrocha Carnero pour son bouquin Une histoire de France en crampons aux éditions du Détour. Alors, un des quatre grands chapitres est consacré il s'appelle Un monde du travail, et donc je reviens à ce match de 78. La fameuse affaire des chaussures. Est-ce que François, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas? Alors moi, j'ai souvenir. Là, je me suis replongé dedans, mais c'est assez étonnant.
Adidas a proposé des primes aux joueurs de l'équipe de France de football pour repasser au cirage les bandes qui pouvaient être visibles sur les chaussures en question, puisqu'Adidas était l'équipementier de l'équipe de France. Et les primes s'avéreront insuffisantes par rapport en particulier à d'autres équipes présentes lors de la Coupe du Monde. Quelques joueurs ont lancé un vent de révolte et n'ont pas repassé les bandes comme il fallait au cirage. Les négociations ont échoué. Elles impliquaient le représentant d'Adidas auprès de l'équipe de France, qui était lui-même un ancien international, François Remeter, qui est décédé il y a peu de temps.
Et donc, joueur légendaire du Racing Club de Strasbourg.
Là, on a juste la preuve, finalement, que les problèmes de primes, les problèmes de sponsors, ça se négocie avant une Coupe du Monde, pour éviter de pourrir une ambiance d'un groupe, pour éviter de créer des polémiques.
Et à l'époque,
également,
les joueurs étaient passés pour des mercenaires, intolérable.
Et d'autant plus que l'équipe de France joue loin de la France, et donc on n'a que quelques échos qui arrivent de l'autre bout du monde à ce moment-là. Et la caisse de résonance qu'est la presse sportive du moment fait que ça devient un véritable scandale. Si on y ajoute les scandales de l'Hindou Club, qui est l'hôtel où se trouve l'équipe de France et qui se trouve être aussi l'hôtel du premier adversaire de l'équipe de France, à savoir l'Italie. Et donc les Italiens peuvent voir comment l'équipe de France joue pendant les entraînements, avant même le premier match de Coupe du Monde. Bon, évidemment, c'est pas fait pour arriver dans des conditions idéales. Le parcours de l'équipe de France n'en reste pas moins valeureux en 78.
Oui, même s'ils ne sont pas allés bien loin. Alors il y a un truc quand même. Vous parlez de Nice-Na avec un chapitre. Et là, c'est marrant parce que alors, ça s'appelle Nice-Na et la remise en cause politique du droit de grève.
Oui.
Alors pourquoi donc ?
Alors, vous avez des joueurs, vous avez des employés, même s'ils ne sont pas tout à fait employés par la fédération. Vous avez des employés qui manifestent leur solidarité à l'encontre d'un de leurs collègues qui a été licencié injustement. Voilà ce qui s'est passé. Si on retire tout ce nuage opaque que crée l'argent et que crée également les discours raciaux, les discours identitaires qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, faut pas oublier que la France possède un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, justement, dans ces années-là. Si on arrive à faire abstraction de cela, on se rend compte que ce n'est qu'une situation du monde du travail.
Un mouvement social.
Un mouvement social parmi d'autres, dans un pays où les mouvements sociaux ne sont pas toujours très bien accueillis. Voilà, Nice-Na, ça a été ça. Et en plus, bien sûr, avec le buzz que peut créer l'argent.
Les mouvements sociaux ne sont pas toujours soutenus par la population. Ils le sont dans l'exemple qui nous occupe en ce moment dans l'actualité.
Tout à fait.
Mais historiquement, les mouvements sociaux ne sont pas toujours soutenus par la population. Et en l'occurrence, là, pour le coup, le mouvement social qui a pris forme, et c'est pas qu'il n'était pas soutenu, c'est qu'il était déploré par à peu près 95% de la population qui a trouvé ce mouvement social, pour reprendre votre expression, abusif et honteux.
Parce que c'est un mouvement social de millionnaires, forcément, ça passe moins bien.
Mais aussi parce que le mouvement social d'hommes qui sont censés représenter la France dans une Coupe du Monde, un événement qui ne vient que tous les 4 ans et où on est à la recherche de plaisir plus que de préoccupation, fait que effectivement t'as pas envie de voir ces mecs là foutre le bordel, t'as juste envie de les voir jouer parce que t'attends d'eux que au-delà même de la représentation de ton pays, simplement qu'ils te fassent un peu kiffer et qu'ils te donnent du plaisir.
Mais
en l'occurrence, ils n'en donnaient pas parce que le chef de l'entreprise était en plus un très 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 mauvais chef d'entreprise.
Raymond Domenech, en l'occurrence. Oui.
D'ailleurs, ils n'ont pas refusé de jouer. Ils n'ont pas refusé de montrer ce jeu. Ils ont refusé de se montrer dans un entraînement public. C'est ça.
Oui, quand ils étaient sur le terrain, ils montraient pas. Quand ils étaient sur le terrain, ils montraient pas grand-chose.
Ah, ça, on peut trouver que c'était insuffisant, de fait.
Oui, c'est-à-dire que faire un grève quand ta productivité est nulle, c'est voilà, pour ça, reprendre en fait. Une image du monde du travail.
De fait. Mais il se trouve que là, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas déclaré forfait lors d'un match.
Et ce qui était également vilipendé, c'était l'attitude de sale gosse, de sale type des joueurs, qui plutôt que de se soucier de ce que pensaient les gens, cherchaient des taupes. Et n'utiliser que du vocabulaire et des attitudes de petites frappes de bas d'immeuble qui sont pas bien vues globalement dans la société en France, à juste titre d'ailleurs. Ils avaient des attitudes de petits voyous.
Mais est-ce qu'on aurait considéré ces attitudes comme étant celles de petits voyous si on n'avait pas été dans un contexte permettant de voir cela,
Bien sûr. Évidemment. Donc le choix de certains joueurs et le non-contrôle, parce que pour être respecté, il faut être également respectable. Et ceux qui sont censés, mettre de l'ordre dans une institution, effectivement, étaient tout aussi condamnables que les employés qui faisaient grève. Donc le président de la fédération, l'entraîneur qui avait fait les choix et tout ce qui tournait autour de l'équipe de France à ce moment-là. Ils n'étaient pas eux, les joueurs, les seuls responsables.
Dernier chapitre, pas le moins intéressant, l'équipe de France face aux situations politiques particulières et face au totalitarisme en particulier. Alors on a parlé de 78, évidemment la Coupe du Monde controversée, qui est sans doute la plus controversée avec celle du Qatar, enfin dans les débats franco-français avant de partir. En tout cas, rappelez-vous qu'il y avait un mouvement de boycott avant la Coupe du Monde 78.
Dans les émissions de télé, on en parlait, alors il y avait moins de chaînes de télé, il y avait moins de bruit autour, mais 78, évidemment, on l'a oublié, mais ça.
Il y avait une prise d'otage du sélectionneur.
Une tentative
qui a échoué un peu lamentablement de Hidalgo.
Clownesque, mais il y a
si
eu
on remet d'ailleurs dans les proportions, peut-être que c'était plus chaud en 78 peut-être. Que ça l'a été au moment du Qatar, où ça n'a pas duré longtemps finalement.
Mais j'aimerais remonter plus loin parce qu'il y a deux matchs là qui sont intéressants. Il y a un 19 mars 1933 en Allemagne-France, donc l'installation du nazisme à Berlin, et un Italie-France en 38, 4 décembre 38, où là on est dans l'Italie de Mussolini. Alors pourquoi ces chapitres-là? Parce que ça raconte l'histoire de ces pays-là à ce moment-là. Donc, et que font les joueurs français alors?
Ce sont deux matchs très très différents dans leur approche, parce que mars 1933, les joueurs français, ils se baladent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est quand même la capitale de l'ancien ennemi, Berlin. Dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils savent qu'un nouveau pouvoir est en train de se mettre en place, et finalement, que ce soit les joueurs ou la presse, on regarde ça d'un œil presque amusé, d'un œil folklorique. C'est amusant, ces petits gamins qui se trimballent avec des boîtes de conserve pour faire la quête pour le parti nazi. On regarde ça d'un œil vraiment
fou. Oui, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir le parti nazi.
On ne sait pas ce que ça va devenir. Et là, c'est intéressant d'aller voir un petit peu l'histoire, et en particulier par le biais d'un match comme ça, parce que on a au moins une chronologie plus fine que ce qu'on peut avoir comme image lorsqu'on connaît la suite de l'histoire. Là, on ne la connaît pas, la suite de l'histoire. Mais le Reichstag a déjà été incendié. On ne la connaît pas encore, la suite de l'histoire. 38, c'est très différent, parce que là, on a une équipe de France qui fait face aux tifosi, qui comprennent pourquoi, dans cette fièvre napolitaine, pourquoi on appelle les supporters italiens les tifosi, parce qu'ils sont comme atteints de cette fièvre typhoïde, comme atteints du typhus. Et face à une véritable révolte italienne, alors les Italiens et les historiens italiens mettent un petit peu d'eau dans le vin, parce qu'ils disent que lors de la Coupe du Monde en 1938, quelques mois auparavant, l'équipe d'Italie, la Squadra Azzurra, avait été accueillie assez peu délicatement par les supporters français. Mais là, en décembre 38, on se retrouve face à une foule raciste qui hurle contre Larbi Ben Barek en particulier, et contre Raoul Dieng, à une foule qui est dans un moment anti-français très fort, qui correspond également au discours politique de Mussolini et de ses ministres à ce moment-là précis. Mmh. Et la preuve en est, le témoignage d'Étienne Mattler en est là, et là, pour montrer à quel point la France était mal accueillie. On est dans un restaurant, le match terminé. Les Italiens commencent à se moquer en voyant que ce sont les joueurs français qui sont là. Étienne Mattler réagit en se mettant sur la table et en chantant la Marseillaise.
Bon, voilà, Étienne Mattler.
Une certaine idée de la France.
Ouais. Voilà. Je rappelle juste quand même que la France a perdu.
Oui, ça arrive.
Il y avait les fameuses polémiques à l'époque également sur les saluts. Il y a eu aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux de 36 où les Français ont salué, mais alors pas vraiment le salut nazi parce que c'était pas le même.
C'est enfin, le salut olympique,
c'est le bras parallèle au corps, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon. Il y a eu ces histoires-là aussi pour ce match de l'équipe de France.
Il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas, dans l'état actuel des recherches, comme on dit quand on est historien, il n'y en a pas. Il n'y a pas ce genre de polémique.
Bon, voilà les principaux chapitres de ce bouquin. Bon, je peux revenir sur 78 et Videla, on en a déjà
beaucoup parlé.
Et puis la fin parle des attentats, le France-Allemagne, notamment.
Des attentats à Paris aussi, qui est effectivement évoqué. Donc c'est marrant de voir que dans le même bouquin, on est très loin, évidemment, avec les premières guerres, comme disait Daniel tout à l'heure. Il y a les conflits mondiaux, mais il y a aussi le terrorisme, parce que il a quand même touché, effectivement, il devait même toucher beaucoup plus que ça le Stade de France. Mmh. Donc c'était quand même par hasard, pas seulement parce qu'il y avait du monde, bien sûr aussi parce qu'il y avait du monde, mais c'est vrai que le symbole était touché.
Oui, et puis au-delà, ça se termine par l'évocation des deux matchs qui n'ont pas eu lieu, parce que le Covid est passé par là et que le confinement est passé par là. L'histoire continue de s'écrire.
Donc en fait, c'est un bon conseil si vous êtes parent et que vos enfants ont un peu du mal avec l'histoire et qu'ils aiment le foot, du coup ça permet de faire un petit parallèle là et de non, mais c'est vrai.
Oui, et c'est vrai que
c'est un outil pédagogique.
Oui, mais tu sais, quand on avait reçu François Ruffin, parce que c'était pas lui qui l'avait écrit, mais c'était un collectif, c'était sur l'économie, c'est un peu pareil, c'est un biais qui permet d'aller sur de l'économie tout en parlant de foot, et là c'est la même chose pour l'histoire.
François, merci d'être venu. C'était passionnant. Une histoire de France en crampon, donc, aux éditions du Détour. Nous, on va parler mercato dans quelques instants. Est un peu plus factuel là, sur l'actu du jour, notamment sur ce qui se trame actuellement entre Lorient et Marseille. Pablo Longoria était à Lorient aujourd'hui. On vous raconte tout dans quelques instants. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h48, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Après cette leçon d'histoire, revenons au présent, messieurs au factuel, et au mercato, parce que ben voilà, ça arrive ce soir, les infos d'RMC, notamment de Fabrice Hawkins, toujours sur les bons coups, qui nous raconte que Pablo Longoria a donc fait le déplacement jusqu'à Lorient ce mardi à la mi-journée pour tenter de trouver un accord avec Loïc Ferry dans deux opérations distinctes. Donc, arrivée de Mofi à Marseille et départ de Bamba Dieng à Lorient. Ce soir, Bamba Dieng et Lorient sont d'accord. Le Sénégalais est en temps chemin là pour passer sa visite médicale à Lorient. Alors, tout de même, rien, les choses ne sont pas encore totalement bouclées puisque demain, l'OM et Lorient doivent encore négocier pour se mettre définitivement d'accord sur le dossier Mofi. On va dire que Dieng, c'est plus avancé que Mofi, en fait. Hein, voilà. Ouais. Mais en tout cas, peut-être échange plus argent, parce qu'on peut considérer peut-être que Mofi a évidemment plus de valeur que Dieng aujourd'hui.
En tout cas, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'une nouvelle fois, quand Pablo Longoria prend un dossier, le dossier avance. Parce qu'initialement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier ? Mofi, effectivement, prêt à partir, était plus tenté par l'aventure niçoise. Mais il a été tenté par l'aventure niçoise quand on disait « il préfère aller à Nice ». C'était pas il préfère aller à Nice et ne veut pas aller à l'OM. Mmh. C'est pas exactement comme ça qu'il fallait le voir. C'était à partir du moment où Marseille est réellement entré en négociation et que Longoria a commencé à parler aussi bien à Ferry qu'aux joueurs, eh bien le joueur, il a changé sa préférence. Et il a plus envie maintenant d'aller à l'OM.
Ce que tu veux dire, c'est que la capacité de persuasion de Longoria fait la
différence. Oui, mais bah après.
J'ose espérer que le club aussi en soi.
Que Longoria soit bon, il n'y a pas de problème.
Salaire,
qu'il aille parler à Mofi, il n'y a pas de problème. Mais qu'aujourd'hui, tu veuilles aller à l'OM, enfin, j'ai presque envie de dire, de tout temps, tu veuilles aller à l'OM plus qu'à Nice, ça paraît couru d'avance. Donc. Que ça se termine de cette façon, c'est presque logique. Mais néanmoins, encore fallait-il que quelqu'un prenne le dossier en main et aboutisse. Et c'est ce qu'a fait Pablo Longoria, comme tu l'as dit, en se déplaçant directement. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même, à moins de retournement de situation, comme ça peut arriver dans les dossiers transferts, mais là, ça m'étonnerait, Mofi sera un joueur de l'OM.
Intéressant.
Et très franchement, quand on voit ce mercato
d'hiver à Marseille... Il y a un truc sur lequel tu n'as pas insisté, Daniel, c'est que là, tu as quand même un président de club qui se déplace... qui va lui-même en personne. Je veux dire, dans le milieu des transferts, c'est assez rare.
Oui,
en général, ça se fait.
Il a une espèce d'un peu de double
casquette. Au téléphone, dans les bureaux.
Et puis, président, directeur sportif. Et on sait que le rôle de directeur sportif lui tient à cœur et que, au fond, c'est quand même le rôle qui lui va le mieux, même s'il fait l'autre également très bien.
Oui, mais c'est sûr que déjà pour le joueur, par exemple, c'est assez fort de savoir que le président d'un club se déplace.
Le mec est venu, a discuté avec toi. Voilà.
C'est intéressant. Ouais,
j'allais conclure sur le mercato d'hiver quand même. L'OM, sans faire de bruit, est en train donc de boucler Mofi, a fait venir Malinovski. L'équipe de l'OM, elle a une sacrée allure, même si tu envisages la saison prochaine. Je trouve que c'est solide et c'est surtout très bien préparé dès le mois de janvier.
Et un mot sur le profil, parce que c'est intéressant de voir que les interrogations qu'on pouvait avoir, même si on a affaire à un collectif où beaucoup de joueurs marquent, hein, on va dire, pour faire simple, sur Alexis Sanchez, on n'a pas sur la qualité du joueur, mais sur son
neuf.
Voilà, en tant que neuf. Et ça, c'est génial, parce que le fameux neuf, on va parvenir à la problématique du grand attaquant, mais le fameux neuf dont, à mon avis, l'OM avait besoin, que évidemment Alexis Sanchez peut remplacer. C'est pas un problème d'adresse et de qualité devant le but. C'est un problème de type de joueur, mais même d'âge un peu pour Sanchez, qui pourrait être bon en 9,5 et jouer avec un vrai 9. Donc c'est presque une option supplémentaire, en plus d'être un très bon joueur.
Que réclamait Sanchez d'ailleurs.
Que réclamait Sanchez, que à mon avis, que Tudor va apprécier. Et comme il a pas tendance, enfin, il a tendance à ne pas forcément élargir tout le temps ses groupes, hein, Tudor, il essaie de faire confiance. Ouais. Là, je pense qu'il va être obligé et heureux d'intégrer un joueur supplémentaire dans la rotation, voire titulaire. Donc, je pense qu'en profil, c'est plus qu'intéressant pour l'OM.
Ah oui,
ça donne par rapport à tout ce qu'on dit de l'OM, sa deuxième place, quitte à aller même challenger le PSG, etc., la Coupe de France, il se renforce.
Il y a une logique qui est celle de prendre aussi un joueur au-delà de ses qualités qui évolue dans un club et avec un entraîneur. L'abattage, la générosité, la détermination, enfin c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie à Lorient, où on court, où on est dans un collectif où on fait les efforts, et ça, ça va pas le changer, puisque Tudor demande la même chose à ses joueurs. Donc là, il récupère un joueur immédiatement opérationnel et qui va tout de suite se fondre dans le collectif.
Alors t'as attention,
pas,
parce
ça
que
ça va pas le changer, tu vois. C'est pas un mec qui arriverait de Lyon où personne ne court et qui d'un coup arrive à l'OM où il faut beaucoup courir.
On y vient à Lyon dans quelques minutes. Mais à Lorient, on est moyennement content. Étienne est supporter de Lorient. Salut Étienne.
Salut à tous.
Salut Étienne.
Bon, d'ailleurs, alors, si ça se fait pour Mofi,
c'est ce que tu disais hier.
Ferry aura menti.
Eh ben oui, c'est ce que disait Daniel.
Non.
Étienne.
Heureusement que t'as pas mis. Il avait mis quoi, Gilbert, hier, il...
J'avais simplement dit, on attend de voir s'il va tenir sa parole, puisqu'il a dit ce week-end aux supporters, il n'y aura qu'un gros départ cet hiver, Étienne.
Ouais, exactement. Ouais, alors déjà, je suis ravi de vous avoir. Franchement, je suis un énorme fan de l'After, donc c'est un vrai régal. Merci les gars de me prendre. Ouais, effectivement, bah moi j'ai eu le communiqué du président, et en vrai, moi ce soir, j'ai mal à mon foot. En tant que supporter à l'orienté, clairement, en 10 jours, on se fait piller nos deux meilleurs attaquants. J'ai pas de débat sur le fait que, évidemment, t'as une logique économique qui est incontournable, surtout pour un petit club comme nous. Les temps sont durs après Mediapro, après le Covid, tout ça. Mais est-ce qu'à un moment, on pourrait pas aussi avoir un peu un juste milieu? C'est-à-dire que là, on vend deux attaquants. Lorient a mis 31 buts pour l'instant. À eux deux, ils en ont mis 18. Donc déjà, t'as une dépendance qui est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on peut pas se dire à un moment, on fait un juste milieu? Tu vois, on fait une vente, comme il l'a dit, et le reste, est-ce qu'on peut pas négocier éventuellement avec Mofi, même si le joueur peut avoir envie de départ? Est-ce qu'on peut pas négocier éventuellement un bon de sortie en fin de saison? Le gars est en confiance, potentiellement, s'il y a encore quelques buts, tu pourras le vendre encore plus cher et en plus bien finir au niveau sportif, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'attriste, c'est que pour moi, la logique de Ferry, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lorient a 32 points. L'objectif de Lorient, c'est toujours le maintien. Donc tu te dis qu'il va te manquer 10 ou 12 points pour avoir le maintien. Et en fait, je pense que le pari de Ferry, c'est de se dire, OK, on entame à peine la phase retour, il reste 19 matchs, on va dire. Et lui, il prend le pari que Lorient peut aller chercher ses points pour se maintenir en vendant ses deux meilleurs atouts offensifs. Je pense que c'est clairement sa logique. En ayant deux objectifs, le premier, c'est de maintenir le club en Ligue 1, clairement. Mais le deuxième, c'est de rentrer de l'oseille. Et ça, clairement, en tant que supporter, ça fait vraiment mal. Franchement, moi, je note pas noir depuis pas mal de temps à Lorient. Là, on se régale depuis 6 mois. Et ça y est, en 6 mois, on vend tout le monde. 27 millions sur un joueur qui a mis 6 buts et 6 passes dès en 6 mois. Franchement, moi, ça me fait halluciner.
Ah ouais, mais Étienne, moi, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais comment dire? Malheureusement, pour un club comme Lorient, surtout quand ce club est dirigé par un financier, il peut pas en être autrement. Loïc Ferry, il est pas du tout dans la même démarche que toi. Il a pris Lorient depuis le début pour faire une opération financière. Il est pas plus supporter de Lorient qu'un Rennais ou un Guingampais. Il s'en fout. Il est là pour faire du business. Après tout, le club est descendu, le club est remonté. Il a pas fait que des mauvais choix dans les gens qu'il a mis à la tête du club. Il y a pas mal de joueurs plutôt bons qui sont passés à Lorient, et pour un petit club comme Lorient, une petite ville comme Lorient, c'est même presque démesuré ce que vous avez vu ces dernières années. Il y a des villes et des clubs où ça s'est passé beaucoup moins bien. Donc il y a un peu à boire et à manger dans ce que fait Ferry. Mais le problème, c'est que, alors je sais jamais quand dans l'expression à boire et à manger, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien quand on dit à boire et à manger.
Bah les deux, ça veut dire qu'en fait il y a plusieurs choses, quoi. Il y a des choses différentes.
Ouais. Voilà. Bon. En tout cas, dans les choses, il y a des choses bien, et des choses pas bien. Mais dans les choses pas bien, il y a des clubs bien plus importants que Lorient qui en ont vu des pires, quoi.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, évidemment que ça vous fait mal, mais c'est le destin de ce club. Il peut pas être autrement, et que il faille se faire à cette idée, je sais que c'est dur, mais au moment où il vend le club, où il y a un nouvel actionnaire qui arrive, faire deux énormes ventes comme ça, qui sont quelque part comme un cadeau de bienvenue, genre je te mets une grosse mallette avec plein de billets sur ton bureau pour ta venue, on a vendu, et puis t'inquiète pas, on a un très bon entraîneur, le maintien est assuré, et puis l'année prochaine, et ben de toute façon, ce sera encore le maintien qu'il faudra viser, mais si on est assez malin, on révélera des joueurs, on a un entraîneur qui fait bien jouer, et tu te feras encore du fric parce que tu vas vendre les joueurs que mon entraîneur sympa, il fait bien jouer. En fait, c'est juste que le modèle du foot français, c'est un modèle vendeur, mais le modèle d'un petit club comme Lorient, c'est encore plus ça. Donc, Oui, moi je comprends la douleur que tu peux avoir en tant que supporter, mais j'ai presque envie de te dire de façon un peu cynique, faut t'y habituer parce que ça peut pas être autrement. Je vais même te dire, c'est même si vous aviez fini top 5.
Non, attendez, il y a un, comment dirais-je, moi Étienne, je te demande de maintenant d'être lanceur d'alerte, c'est-à-dire surveiller. Ah bah oui. Ce que Ferry fait avec le pognon récupéré. Est-ce que ça va être réinvesti dans le club? Est-ce que ça va être du recrutement?
Jamais de la vie.
Ou est-ce que c'est juste une pocket?
Ils vont pas réinvestir dans les transferts. C'est pas l'idée, voyons. C'est pas l'idée de racheter des joueurs avec cet argent. L'idée, c'est
C'est ce qu'il a dit. Il a encore menti alors.
C'est ce qu'il a dit. Arrête avec qu'est-ce qu'il a dit quand on parle de Loïc Ferry. C'est un businessman, le gars. Il a pas une danseuse dans les mains. Il a pas envie de kiffer avec le foot. Il va s'en aller. Il a kiffé un peu. Il a fait des affaires, quoi. Voilà. Je lui jette même pas la pierre. Il est ce qu'il est, c'est tout. Il s'est jamais caché d'être autre chose, hein. Pour moi, il a même jamais menti, je vais te dire. C'est ceux qui ont cru autre chose qui sont, selon moi, naïfs.
Je suis pas naïf.
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient.
Tu vois, je jette pas la pierre, parce qu'évidemment, il y a une logique incontournable économique. Il développe le club, il a fait des bonnes choses. Je dis juste que, est-ce qu'il y a un moment, on peut pas trouver un juste milieu, et on veut te vendre les deux à 10 jours du mercato d'hiver, quand il reste 6 mois de saison, est-ce que tu peux pas dire, ok,
attends,
j'en vends un et on voit la fin de saison.
Attends, s'il y a une offre à 50 millions pour le fait, tu crois qu'il vend pas?
Régis Lebris, peut-être qu'il y a un club qui va s'intéresser à lui aussi. Il y a plein d'intérimaires sur les bancs. On ne veut pas te mettre la panique, Étienne.
Non, j'espère pas.
Bon, Étienne, vu que c'est ta première dans l'after, on va t'offrir notre magnifique maillot de l'after. Vrai maillot de foot, fait avec Kappa, nos amis de Kappa.
Pour remettre le couteau dans la plaie.
C'est super gentil, gars.
Tu sais, salut, Étienne, la fameuse stat but moins expected goals. Eh bien, à ce classement-là, Mofi est premier dans Ligue 1 devant Neymar, par exemple.
Dans un instant, le capital au PSG, l'Olympique Lyonnais, le foot allemand. L'after continue jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'after foot.